Jean-Marie Guyot esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. Livre premier, chapitre 4. Le sentiment de l'obligation au point de vue de la dynamique mentale. Le kantisme a eu ce grand mérite que ne saurait contester aucune théorie naturaliste de considérer l'impulsion du devoir comme antérieure à tout raisonnement philosophique sur le bien. Nulle raison démonstrative ne saurait en effet changer tout d'un coup ni la direction ni l'intensité de cette impulsion. La théorie de l'impératif catégorique est donc psychologiquement exacte et profonde. Seulement Kant n'avait pas le droit de considérer sans preuve cet impératif comme transcendantal. Une nécessité pratique interne, peut-être une nécessité plus ou moins mécanique. Dans la moralité comme dans le génie, il peut exister une sorte de pouvoir naturel précédant le savoir qui nous entraîne à agir et à produire. Le propre des penchants naturels, des habitudes, des coutumes, n'est-ce pas précisément de commander sans donner de raison à l'individu. La coutume dans la conscience individuelle ou dans l'État, comme le disait Pascal, est respectée par cette seule raison qu'elle est reçue. L'autorité de la loi est parfois toute ramassée en soi, sans se rattacher à aucun principe de moralité. La loi est loi et rien davantage. En présence du tout pouvoir antérieur à lui, de toute force qui n'est pas celle des idées raisonnées. L'entendement joue toujours le rôle secondaire qu'a bien montré le kantisme. Il se sent devant un mystère. Il ne s'ensuit pas d'ailleurs qu'il renonce à l'expliquer, même d'une manière plus ou moins superficielle. Au contraire, il n'y a rien dont l'intelligence humaine trouve autant d'explications que d'une chose pour elle inexplicable. Que de théories sur le bien, que de raisons données de cette affirmation non raisonnée, je dois. Ou, comme disaient les anciens, il faut. On connaît l'exemple de cette somnambule à qui il avait été commandé, pendant son sommeil, de venir chez le magnétiseur, tel jour, à telle heure. Le jour dit, elle arrive, par un temps abominable d'orage. Et cependant, comme elle ne se rappelle plus de qui lui vient l'impératif auquel elle a obéi inconsciemment, elle trouve toute une série de raisons plausibles pour expliquer qu'elle est venue. On peut dire qu'il n'y a rien de suggestif pour l'intelligence comme un instinct qui n'a pas en elle son origine. Se manifestant sous forme d'idées fixes, il ne tarde pas à constituer un centre intellectuel autour duquel viennent graviter et se grouper, avec les rapports les plus inattendus, toutes les autres idées de l'esprit. En réalité, le raisonnement dans l'abstrait est impuissant à expliquer un instinct, à rendre compte d'une force irrationnelle dans son principe même. Il faut l'observation, l'expérience. Une fois admis avec le kantisme le fait du devoir, cherchons donc a bien constaté ce fait dans ses variations essentielles et dans ses rapports avec les autres faits similaires de la conscience. Nous verrons ensuite s'il nous paraît offrir rien de supranaturel. Kant lui-même a posé le problème dans la prosopopée célèbre « Devoir, où trouver la racine de ta noble tige qui repousse fièrement toute alliance avec les penchants? » Mais à cette interrogation, Kant n'a vraiment pas répondu. Il n'a pas recherché quel lien de parenté pouvait, malgré l'apparence, rattacher aux autres penchants le devoir noble et fier. La loi du devoir, disait aussi Confucius dans un sens tout kantien, est un océan sans rivage. Le monde ne peut la contenir. Par malheur, à 3 heures du rivage, la moindre masse d'eau semble un océan. Quand on navigue sur le fleuve des Amazones, on se croit sur la mer. Pour distinguer le fleuve de la mer, il ne faut pas essayer de regarder au loin. Il faut se pencher sur son eau et la goûter. L'analyse intérieure est aussi le seul moyen d'apprécier l'infinité réelle ou imaginaire de notre horizon moral, de quelque manière qu'on se le représente métaphysiquement et moralement. Le devoir n'est pas sans posséder par rapport aux autres motifs ou mobiles une certaine puissance psychomécanique. Le sentiment de l'obligation morale est une force agissant dans le temps, suivant une direction déterminée, avec une intensité plus ou moins grande. Étudions les modifications que produisent dans l'action intérieure du devoir ces deux éléments variables, le temps et l'intensité. Un homme célèbre par sa courageuse intégrité, Daumesnil, disait un jour à un ministre de Charles X: Je ne marche pas à la suite de ma conscience, elle me pousse. Selon cette distinction très fine, on peut diviser les actions morales en deux catégories. Dans les unes, nous sommes à la lettre poussés en avant par le sentiment d'un devoir, sans avoir le temps de discuter, de délibérer, de raisonner. Dans les autres, nous nous laissons traîner à sa suite, avec la conscience plus nette d'une résistance possible, d'une certaine indépendance, avec l'idée d'une loi qui ne nous force pas à l'obéissance. Dans le premier cas, le sentiment de devoir agit sur nous par une impulsion soudaine. Dans l'autre, son action est bien plus lente et plus complexe. Un exemple caractéristique de sentiment moral impulsif et irréfléchi nous est fourni par de pauvres ouvriers d'un four à chaux dans les Pyrénées. L'un d'eux étant descendu dans le four pour se rendre compte de je ne sais quel dérangement, tombe asphyxié. Un autre se précipite à son secours et tombe. Une femme, témoin de l'accident, appelle à l'aide. D'autres ouvriers accourent. Pour la troisième fois, un homme descend dans le four incandescent et succombe aussitôt. Un quatrième, un cinquième sautent et succombent. Il n'en restait plus qu'un. Il s'avance et va sauter. Lorsque la femme qui se trouvait là s'accroche à ses vêtements et, à moitié folle de terreur, le retient sur le bord. Un peu plus tard, le parquet s'étant rendu sur les lieux pour procéder à une enquête, on interrogea le survivant sur son dévouement peu réfléchi, et un magistrat entreprit avec gravité de lui démontrer l'irrationalité de sa conduite. Il fit cette réponse admirable: Mes compagnons se mouraient. Il fallait y aller. Dans cet exemple, le sentiment d'obligation morale avait perdu en effet toute base rationnelle. Il n'en était pas moins assez puissant pour pousser successivement cinq hommes au sacrifice inutile de leur vie. On ne contestera pas qu'ici, le sentiment du devoir n'est la forme d'une impulsion spontanée, d'un déploiement soudain de la vie intérieure vers autrui, plutôt que d'un respect réfléchi pour la loi morale, et aussi d'une recherche du plaisir ou de l'utilité. Sous cette forme, qui est la plus élémentaire, et peut-être la plus sublime tout ensemble. Ce sentiment peut se retrouver à quelques degrés jusque chez les animaux. D'autres fois, le sentiment du devoir, au lieu de pousser à l'action, la suspend brusquement. Il peut développer alors ce que messieurs Maudsley et Ribot, avec les physiologistes, appelleraient un pouvoir d'arrêt ou d'inhibition, non moins brusque, non moins violent, quel est le pouvoir d'impulsion? J'étais encore un bambin en jupon, raconte le prédicateur américain Parker. Je n'avais pas plus de 4 ans. Je n'avais jamais tué la moindre créature. Pourtant, j'avais vu d'autres enfants s'amuser à détruire des oiseaux, des écureuils et d'autres petits animaux. Un jour, dans l'eau peu profonde d'un étang, je découvris une petite tortue tachetée qui se chauffait au soleil. Je levai mon bâton pour la frapper. Tout à coup, quelque chose arrêta mon bras, et j'entendis en moi-même une voix claire et forte qui disait: Cela est mal. tout surpris de cette émotion nouvelle, de cette puissance inconnue qui, en moi et malgré moi, s'opposait à mes actions, je retins mon bâton suspendu en l'air jusqu'à ce que j'eusse perdu de vue la tortue. Je puis affirmer qu'aucun événement dans ma vie ne m'a laissé d'impression aussi profonde et aussi durable. Dans ce nouvel exemple, l'action soudaine du devoir est plus remarquable encore que dans le précédent, parce qu'elle suspend une action commencée et oppose un obstacle brusque à la décharge nerveuse qui allait se produire. C'est un coup de théâtre, une révélation subite. La puissance du sentiment est mieux mise en relief par un arrêt que par une impulsion, par une défense que par un ordre. Aussi, après une expérience de ce genre, le sentiment de devoir peut déjà revêtir pour la conscience réfléchie un caractère mystique qu'il n'a pas toujours dans les autres cas. Lorsque l'intelligence se trouve mise d'une manière aussi soudaine, en présence d'un instinct profond et fort, elle est portée à une sorte de respect religieux. Ainsi, au point de vue de la pure dynamique mentale où nous nous plaçons, le devoir peut déjà produire un sentiment de respect qu'il tire à la fois de sa grande puissance suspensive et de son origine mystérieuse. L'action du sentiment moral acquiert un caractère de plus en plus remarquable lorsqu'elle prend la forme non plus d'une impulsion ou d'une répression subite, mais d'une pression intérieure, d'une tension constante. Dans la majorité des cas et chez la majorité des gens, le sentiment de devoir n'est pas violent, mais il est durable. À défaut de l'intensité, il a pour lui le temps, qui est encore le plus puissant des facteurs. Une tension peu forte, mais agissant d'une manière continue et toujours dans le même sens, doit nécessairement triompher de résistances beaucoup plus vives, mais qui se neutralisent l'une l'autre. Lorsque pour la première fois dans l'âme de Jeanne d'Arc apparut distinctement l'idée fixe de secourir la France, cette idée ne l'empêcha pas de rentrer ses moutons à la ferme. Mais plus tard, cette même idée devait faire dévier toute sa vie de jeune paysanne, changer le sort de la France et par là modifier d'une manière appréciable la marche de l'humanité. Si donc nous considérons le sentiment de devoir dans ses analogies, non plus avec la force vive, mais avec la force de tension, nous pourrons nous rendre mieux compte d'abord de sa puissance et ensuite de la forme spéciale que cette puissance prend dans l'esprit. Nous voulons parler de l'obligation morale. L'obligation morale n'a rien qui ressemble à la contrainte extérieure. Et en effet, ce n'est pas un déploiement de force vive. Ce n'est pas une poussée violente dans tel ou tel sens. Lorsque je dis « Je suis nécessité moralement à tel ou tel acte », cela paraît signifier tout autre chose que je ne puis pas ne pas le faire. Il semblerait donc que le sentiment d'obligation échappât au domaine de la dynamique mentale. Mais nous croyons qu'il renferme encore une certaine force de tension. Cette force peut appartenir à tout instinct remplissant les conditions suivantes. Premièrement, être à peu près indestructible. Deuxièmement, être à peu près constant et ne pas avoir les intermittences de la faim, par exemple. Troisièmement, se trouver en harmonie et non en opposition avec ceux des autres penchants qui favorisent le maintien de l'espèce, conséquemment avec toutes les forces sociales, opinions, coutumes, sympathies, éducation, etc. Remarquons-le d'abord. Ce qu'on appelle d'habitude l'obligation morale ne comporte pas toujours l'exécution immédiate de l'acte, ni même d'une manière générale son exécution. Elle accompagne l'idée d'un acte possible et non pas toujours nécessaire. Le devoir n'est plus en ce cas un penchant irrésistible, mais durable. Comme l'a montré Darwin, nous acquérons vite l'expérience que ce penchant n'est pas détruit par sa violation. Le mécontentement que nous éprouvons après y avoir désobéi nous prouve notre impuissance à déraciner l'instinct que nous avons eu le pouvoir de violer. Cet instinct peut être à chaque instant de la durée inférieur à la somme de force qu'exige l'action à accomplir. Mais il apparaît dans la conscience comme devant remplir toute la durée et il acquiert ainsi une puissance d'un genre nouveau. Nous avons donc, parmi les forces intérieures, le sentiment d'une force qui n'est pas insurmontable, mais qui est pour nous indestructible, ou du moins qui nous semble telle d'après une série d'expériences. L'obligation sous ce rapport, c'est la prévision de la durée indéfinie d'un penchant, l'expérience de son indestructibilité. Aussi, n'y a-t-il pas conscience claire du lien de l'obligation avant qu'il n'y ait eu remords, c'est-à-dire persistance de l'instinct malgré sa violation. La faute est un élément nécessaire dans la formation de la conscience morale. Au fond, c'est l'idée de temps qui donne son caractère particulier à cet instinct du devoir, où Kant voyait la manifestation de l'intemporel. Dans l'entraînement de la passion, l'intensité actuelle des penchants entre seule dans le compte des forces qui agissent sur le cerveau. L'avenir ou le passé n'ont pas d'influence. Or, le passé et l'avenir, rappelés ou entrevus, sont une condition de la moralité. La pression des instincts utiles à l'espèce se trouve accrue à l'infini lorsque dans notre imagination, elle se multiplie par tous les moments du temps. Un être, pour devenir moral, doit vivre dans la durée. On connaît les exemples par lesquels Darwin montre que si les animaux avaient notre intelligence, leur instinct donnerait lieu à un sentiment d'obligation. Ce sentiment d'obligation est indépendant de la direction morale ou non morale de l'instinct. Il dépend seulement de son intensité, de sa durée et de la résistance ou du secours qu'il rencontre dans le milieu. Supposons, dit Darwin, pour prendre un cas extrême, que les hommes se fussent produits dans les conditions de vie des abeilles. Il n'est pas douteux que nos femelles non mariées, à l'instar des abeilles ouvrières, considéreraient comme un devoir sacré de tuer leurs frères, et que les mères tenteraient de détruire leurs filles fécondes, sans que personne n'y trouvât à redire. Maintenant, pourquoi l'instinct du devoir qui s'est trouvé en fait coïncider chez l'homme avec l'instinct social et humanitaire est-il si impossible à assouvir et ne prend-il pas la forme périodique des autres instincts? Il y a deux sortes d'instincts. Les uns portent à réparer une dépense de force, les autres à en produire une. Les premiers sont bornés par leur objet même. Ils disparaissent une fois le besoin assouvi. Ils sont périodiques et non continus. La polyphagie, par exemple, est une rareté. Les autres tendent fort souvent à devenir continus, inassouvis. C'est ainsi que, chez certains organismes dépravés, l'instinct sexuel peut perdre son instinct habituel de périodicité et de régularité pour devenir nymphomanie ou satyriasis. Tout instinct portant à une dépense de force peut devenir ainsi insatiable. Débauche intellectuelle, amour de l'argent, du jeu, de la lutte, des voyages, etc. Il faut distinguer aussi entre les instincts qui exigent une dépense de force variée ou ceux qui exigent toujours la même dépense. Ceux qui s'appliquent à un organe déterminé, s'épuisent très facilement, ce qui renferme une série de tendances indéterminées, comme par exemple l'amour de l'exercice, du mouvement, de l'action, ne peuvent qu'être bien plus difficilement assouvis parce que la variété de la dépense constitue une sorte de repos. L'instinct social et moral, en tant que force mentale, est de ce genre. Il est donc parmi ceux qui deviennent facilement insatiables et continus. Que se produit-il lorsqu'un instinct quelconque est ainsi devenu insatiable? Toutes les fois qu'il s'agit d'un instinct peu varié dans ses manifestations, il se produit un épuisement de l'organisme qui ne peut suffire alors à combler la dépense. La nymphomane n'a pas d'enfant. Une trop grande dépense cérébrale arrête aussi la fécondité, tue avant l'âge. L'amour exagéré du danger et de la guerre multiplie les risques et diminue les chances de vie. Mais il y a de rares penchants qui peuvent devenir insatiables sans s'opposer à la multiplication de l'espèce et en la favorisant au contraire. En première ligne est tout naturellement le penchant altruiste. C'était celui qui pouvait le mieux produire un sentiment fort et persistant après une satisfaction passagère. Même au point de vue physiologique, il est possible de montrer ainsi la nécessaire formation de l'instinct social et moral. L'instinct esthétique, qui porte l'artiste à rechercher les belles formes, à agir selon un ordre et une mesure, à parfaire tout ce qu'il fait, est très voisin des penchants moraux et peut, comme eux, donner naissance à un certain sentiment d'obligation. L'artiste se sent intérieurement obligé à produire, à créer, et à créer des œuvres harmonieuses. Il est froissé par une faute de goût aussi vivement que bien des consciences vulgaires par une faute de conduite. Il éprouve sans cesse au sujet des formes, des couleurs ou des sons ce double sentiment de l'indignation et de l'admiration qu'on pourrait croire réservé aux jugements moraux. L'artisan même, le bon ouvrier, fait avec complaisance ce qu'il fait, aime son travail, ne peut consentir à le laisser inachevé, à ne pas polir son œuvre. Cet instinct qui doit se retrouver jusque dans l'oiseau bâtissant son nid et qui a éclaté avec une puissance extraordinaire chez certains tempéraments d'artistes, chez un peuple comme les Grecs, aurait pu sans doute, en se développant, donner lieu à une obligation esthétique analogue à l'obligation morale. Mais l'instinct esthétique n'était lié qu'indirectement à la propagation de l'espèce. Pour cette raison, il ne s'est pas généralisé assez et n'a pas acquis une intensité suffisante. Il n'a pris de réelle importance que là où il touchait à la sélection sexuelle. Dans les rapports des sexes, le goût esthétique a quelque chose d'un lien moral. Le dégoût, si on veut lui faire violence, s'achève en une sorte de remords. Le dégoût esthétique qu'éprouve un individu pour certains individus de l'autre sexe s'observe jusque chez les animaux. On sait qu'un étalon dédaignera les juments trop grossières auxquelles on veut l'accoupler. Chez l'homme, ce même sentiment, lié d'ailleurs à une foule d'autres sociaux, moraux, produira des effets bien plus marqués. Les négresses, que leur maître voulait accoupler comme les animaux et marier de force à des mâles choisis par eux, sont allés jusqu'à étrangler les enfants de cette union forcée. Et pourtant, la promiscuité est fréquente chez les nègres. Un homme qui cherche à assouvir son désir brutal avec une femme physiquement et esthétiquement trop au-dessous de lui en éprouve ensuite une honte intérieure. Il a le sentiment d'une dégradation de la race. La jeune fille qui épouse, afin d'obéir à ses parents, un homme qui lui déplaît, a pu ensuite ressentir un dégoût assez fort à ses voisins du remords moral pour se jeter par la fenêtre de la chambre nuptiale. En tous ces exemples, le sentiment esthétique produit les mêmes effets que le sentiment moral. Génie et beauté obligent. Comme toute puissance que nous découvrons en nous, il nous confère à nos propres yeux une dignité et nous impose un devoir. Si le génie avait été absolument nécessaire à chaque individu pour vaincre dans la lutte de la vie, il se serait sans doute généralisé. L'art serait aujourd'hui un fonds commun aux hommes, comme la vertu. En dehors de l'instinct moral et esthétique, l'un de ceux qui ont pu, chez certains individus, se développer assez pour que l'école anglaise y vit un analogue du sentiment d'obligation. C'est le penchant, si souvent invoqué en exemple par cette école, l'avarice. Mais, même au point de vue étroit et encore grossier où nous nous plaçons ici, remarquons l'infériorité de ce penchant par rapport à l'instinct moral. L'avarice, en diminuant le confort de la vie, produit le même effet que la misère. Elle ne favorise pas la fécondité, car l'avare a peur d'avoir des enfants. En outre, chez l'enfant dont le développement a été gêné par l'avarice paternelle, une réaction se produit fort souvent qui le pousse à la prodigalité. Enfin, raison décisive, l'avarice, n'ayant pas d'utilité sociale, n'a pas été encouragée par l'opinion. Supposez une société d'avares. Chacun n'aura qu'un but, transformer son voisin en prodigue, afin de mettre la main sur son or. Si pourtant, par impossible, des avares s'entendaient parfaitement entre eux et s'excitaient mutuellement à l'avarice, vous ne tarderiez pas à voir naître un devoir de parcimonie, aussi fort comme sentiment que bien d'autres devoirs. Chez nos paysans français, et surtout chez les Israélites, on peut trouver cette obligation peu morale élevée à peu près au niveau des devoirs moraux. Un membre d'une société avare se sentirait sans doute plus obligé à la parcimonie qu'à la tempérance, par exemple, ou au courage. Il éprouverait plus de remords pour avoir manqué à la première obligation qu'aux autres. De ce qui précède, on peut déjà conclure, indépendamment de beaucoup d'autres considérations, que les devoirs moraux, formes diverses de l'instinct social ou altruiste, ne pouvaient pas ne pas naître et qu'il n'en pouvait guère naître d'autres. Une nouvelle raison qui devait assurer le triomphe de l'instinct moral, c'est l'impossibilité d'assouvir le remords, de le faire cesser par une bonne action, comme on fait cesser la faim. La faim apaisée, la peine qu'on a éprouvée n'est plus qu'un souvenir vague qui s'efface. Il n'en est pas de même du remords. Le passé apparaît comme ineffaçable et à jamais cuisant. Au reste, tous les besoins qui ne sont pas trop purement animaux n'admettent pas non plus ces sortes de compensations que permet la faim ou la soif. Tel est l'amour. On peut regretter indéfiniment l'heure d'amour que vous offrait la femme aimée et que vous avez laissée échapper sans avoir pu la retrouver jamais. L'amant ne peut pas, comme dans une comédie de Shakespeare, remplacer une femme par une autre. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit, n'y pensons plus, dit-elle. Et moi, j'y pense toujours. Enfin, l'avantage le plus considérable des instincts moraux, c'est qu'ils ont pour eux le dernier mot. Si je me suis dévouée, ou bien je suis mort, ou bien je survis avec la satisfaction du devoir accompli. Les instincts égoïstes, eux, sont toujours contrariés dans leur triomphe. Jouir de la satisfaction du devoir accompli, c'est oublier la peine qu'on a prise pour l'accomplir. Au contraire, La pensée qu'on a manqué au devoir apporte quelque chose d'amer, jusque dans le plaisir. En général, le souvenir du travail, de l'attention, de l'effort déployé pour la satisfaction d'un instinct quelconque s'efface très vite. Mais le souvenir de l'instinct non satisfait persiste aussi longtemps que l'instinct lui-même. Léandre oubliait vite avec Héro l'effort déployé pour traverser les Lespons. Il n'eût pas pu oublier Héro dans les bras d'une autre amante. L'instinct moral, une fois établi avec sa force obligatoire, dans quel ordre a-t-il donné naissance aux différents devoirs? Dans un ordre souvent inverse de l'ordre logique adopté par les moralistes. La plupart des moralistes mettent en premier lieu les devoirs envers soi-même, la conservation de la dignité intérieure. Ils placent ensuite les devoirs de justice avant les devoirs de charité. Cet ordre n'a rien d'absolu, et l'ordre tout contraire s'est souvent produit. Le sauvage ignore le plus souvent la justice et le droit proprement dit, mais il est susceptible d'un mouvement de pitié. Il ignore la tempérance, la pudeur, etc. Et au besoin, il risquera sa vie pour sa tribu. La tempérance, le courage sont en grande partie des vertus sociales et dérivées. La tempérance, par exemple, est encore dans les masses une vertu sociale. Si un homme du peuple, au repas où on l'a invité, ne mange pas et ne boit pas largement, comme au cabaret, c'est plutôt par peur d'inconvenance ou par crainte d'une indigestion que par un sentiment de délicatesse morale. Le courage n'existe guère sans un certain désir de la louange, de l'honneur. Il s'est développé beaucoup, comme l'a montré Darwin, par l'effet de la sélection sexuelle. Enfin, les devoirs envers soi-même, tels que les comprend un moderne, se ramènent en grande partie aux devoirs envers autrui. Les moralistes distinguent les devoirs négatifs et les devoirs positifs, l'abstention et l'action. L'abstention, qui suppose qu'on est maître de soi, sui compos, est première au point de vue moral. C'est la justice. Mais elle est beaucoup moins primitive au point de vue de l'évolution. Une des choses les plus difficiles à obtenir des êtres primitifs, c'est précisément l'abstention. Aussi, ce qu'on nomme le droit et le devoir strict est le plus souvent postérieur au devoir large. Il offre au peuple primitif un caractère souvent moins obligatoire. Se jeter dans la mêlée pour secourir un compagnon apparaîtra à un sauvage et à bien des hommes civilisés comme plus obligatoire et plus honorable que de s'abstenir de lui prendre sa femme. Il y a, dans l'effort qu'exige l'abstention, un déploiement de volonté parfois plus grand que dans l'action, mais moins visible. De là vient que les moralistes ont été portés à lui attribuer une importance secondaire. On ne sent pas l'effort d'Hercule soulevant un fardeau à bras tendu, précisément parce que ce bras est immobile et ne tremble pas. Mais cette immobilité coûte plus d'énergie intérieure que bien des mouvements. Nous n'avons considéré jusqu'à présent le sentiment moral que comme un sentiment spontané, encore irraisonné quant à son principe. Que va-t-il se produire lorsque ce sentiment deviendra réfléchi, raisonné? Lorsque l'homme moral voudra expliquer les causes de son action et la légitimer? À en croire M. Spencer, l'obligation morale, qui implique résistance et effort, devra disparaître un jour pour laisser place à une sorte de spontanéité morale. L'instinct altruiste sera si incomparablement fort que sans lutte, il nous entraînera. Nous ne mesurerons même pas sa puissance parce que nous n'aurons pas la tentation d'y résister. Alors, pourrait-on dire, la force de tension que possède l'idée du devoir se transformera en force vive dès que l'occasion se produira, et nous n'en prendrons pour ainsi dire conscience que comme force vive. Un jour viendra, dit même M. Spencer, où l'instinct altruiste sera si puissant que les hommes se disputeront les occasions de l'exercer, les occasions de sacrifice et de mort. M. Spencer va trop loin. Il oublie que si la civilisation tend à développer indéfiniment l'instinct altruiste, si elle transforme peu à peu les règles les plus hautes de la morale en simples règles de convenance sociale, presque de civilité, d'autre part, la civilisation développe indéfiniment l'intelligence réfléchie, l'habitude de l'observation intérieure et extérieure, l'esprit scientifique en un mot. Or, l'esprit scientifique est le grand ennemi de tout instinct. C'est la force dissolvante par excellence de tout ce que la nature a lié. C'est l'esprit révolutionnaire. Il lutte sans cesse contre l'esprit d'autorité au sein des sociétés. Il luttera aussi contre l'autorité au sein de la conscience. Quelque origine qu'on attribue à l'impulsion du devoir. Si cette impulsion n'est pas justifiée de tout point par la raison, elle pourra se trouver gravement modifiée par le développement continu de la raison chez l'homme. La nature humaine, disait un douteur chinois à Mencius, le disciple fidèle de Confucius, est si malléable et si flexible qu'elle ressemble à la branche du saule. L'équité et la justice sont comme une corbeille tissée avec ce saule. Mais l'être moral a besoin de se croire un chêne au cœur ferme, de ne pas se sentir céder comme le saule au hasard de la main qui le touche. Si sa conscience n'est qu'une corbeille tissée par l'instinct, avec quelques branches ployantes, la réflexion pourra bien défaire ce que l'instinct avait fait. Le sens moral perdra alors toute résistance et toute solidité. Nous croyons qu'il est possible de démontrer scientifiquement la loi suivante. Tout instinct tend à se détruire en devenant conscient. On nous a fait sur ce point, en France comme en Angleterre, un certain nombre d'objections tendant à établir que les théories morales sont sans influence sur la pratique. Nous avions montré que le sens moral, si par hypothèse on le dépouille de toute autorité vraiment rationnelle, se trouve réduit au simple rôle d'obsession constante ou d'hallucination. On nous a répondu que le sens moral n'a rien de commun avec une hallucination, car il n'est pas du tout un jugement ni une opinion. La conscience n'affirme pas, elle commande, et un commandement peut être sage ou fou, non vrai ou faux. Mais, dirons-nous à notre tour, ce qui constitue précisément le caractère non sensé d'un commandement, c'est qu'il ne s'explique point par des raisons plausibles, c'est-à-dire qu'il correspond à une vue fausse de la réalité. Tout commandement renferme ainsi une affirmation et implique non seulement folie ou sagesse, mais erreur ou vérité. De même, toute affirmation renferme implicitement une règle de conduite. Un fou n'est pas seulement trompé par les idées qui l'obsèdent, il est dirigé par elles. Nos illusions nous commandent et nous gouvernent. Le sentiment moral qui m'empêche de tuer agit sur moi comme sentiment par les mêmes ressorts que le penchant immoral qui pousse un maniaque à tuer. Nous sommes mus tous deux de la même manière, mais d'après des motifs ou des mobiles contraires. Il faut donc toujours en venir à examiner si mon motif à moi possède plus de valeur rationnelle que celui de l'assassin. Tout est là. Si maintenant, pour apprécier la valeur rationnelle des motifs, on s'en rapporte à un critérium purement positif et scientifique, il se produira un certain nombre de conflits entre l'utilité publique et l'utilité personnelle, conflit qu'il est bon de prévoir. Quant à espérer que l'instinct pourra trancher ces conflits à lui seul, nous ne le croyons pas. Au contraire, l'instinct se trouvera de plus en plus altéré chez l'homme par les progrès de la réflexion. Nous ne saurions donc nous accorder avec nos critiques d'Angleterre sur ce point essentiel. L'éthique, qui est une systématisation de l'évolution morale dans l'humanité, est-elle sans influence sur cette évolution même et ne peut-elle en fonder le sens d'une façon importante? En termes plus généraux, tout phénomène qui arrive à la conscience de soi ne se transforme-t-il pas sous l'influence même de cette conscience? Nous avons remarqué ailleurs que l'instinct de l'allaitement, si important chez les mammifères, tend de nos jours à disparaître chez beaucoup de femmes. Il y a un phénomène bien plus essentiel encore, le plus essentiel de tous, celui de la génération, qui tend à se modifier d'après la même loi. En France, où la majorité du peuple n'est pas retenue par des considérations religieuses, la volonté personnelle se substitue partiellement dans l'acte sexuel à l'instinct de reproduction. De là, en notre pays, l'accroissement très lent de la population, qui produit à la fois notre infériorité numérique sur les autres nations continentales et notre supériorité économique, très provisoire d'ailleurs, et déjà compromise. Voilà un frappant exemple de l'intervention de la volonté dans la sphère des instincts. L'instinct, n'étant plus protégé par une croyance religieuse ou morale, devient impuissant à fournir une règle de conduite. La règle est empruntée à des considérations toutes rationnelles et généralement à des considérations de pure utilité personnelle, nullement d'utilité sociale. Le plus important devoir de l'individu, c'est pourtant la génération qui assure la durée de la race. Aussi, dans bien des espèces animales, l'individu ne vit que pour engendrer, et la mort suit immédiatement la fécondité. De nos jours, ce devoir primitif dans toute l'échelle animale se trouve relégué au dernier rang chez la race française, qui semble poursuivre de propos délibérés le maximum de l'infécondité. Il ne s'agit pas ici de blâmer, mais de constater. La disparition graduelle et nécessaire de la religion et de la morale absolue nous réserve beaucoup de surprises de ce genre. S'il n'y a point à s'en épouvanter, au moins faut-il chercher à les prévoir dans un intérêt scientifique. Autre remarque, le simple excès de scrupules peut en venir à dissoudre l'instinct moral. Par exemple, chez les confesseurs et chez leurs pénitentes. Bagehot remarque de même qu'en raisonnant à l'excès sur la pudeur, on peut l'affaiblir et graduellement la perdre. Toutes les fois que la réflexion se porte constamment sur un instinct, sur un penchant spontané, elle tend à l'altérer. Ce fait s'expliquerait peut-être physiologiquement par l'action modératrice de l'écorce grise sur les centres nerveux secondaires et sur toute action réflexe. Toujours est-il que si un pianiste, par exemple, joue par cœur un morceau appris mécaniquement, il faut qu'il le joue avec confiance et rondeur, sans s'observer de trop près, sans vouloir se rendre compte du mouvement instinctif de ses doigts. Raisonner un système d'action réflexe ou d'habitude, c'est toujours le troubler. L'instinct moral que l'évolution tend à fortifier de tant de manières pourra donc recevoir quelque altération du développement excessif de l'intelligence réfléchie. Il faut distinguer sans doute avec soin, dans la morale, les théories métaphysiques et la moralité pratique. Cette distinction, nous l'avons faite nous-mêmes ailleurs. Mais nous ne pouvons accorder aux philosophes anglais que les théories n'influent jamais sur la pratique, ou du moins, influent aussi peu qu'ils le soutiennent. Messieurs Pollock et Leslie Stephen comparent la morale à la géométrie. Les hypothèses relatives à la réalité du devoir, nous dit M. Pollock, n'ont pas plus d'influence sur la conduite que les hypothèses relatives à la réalité de l'espace et de ses dimensions. Messieurs Pollock et Leslie oublient que, si l'espace a quatre dimensions au lieu de trois, cela n'intéresse ni mes jambes ni mes bras, qui s'agiteront toujours dans les trois dimensions connues. S'il existait au contraire pour moi un moyen de me mouvoir selon des dimensions nouvelles, et que cela pût m'être avantageux en quoi que ce soit, je m'empresserais d'essayer, et je travaillerais de toutes mes forces à détruire mon intuition primitive de l'espace. C'est précisément ce qui arrive en morale. Tout un champ d'activité, fermé jusqu'alors par le fantôme de l'idée du devoir, s'ouvre quelquefois devant moi. Si je m'aperçois qu'il n'y a aucun mal réel à ce que je m'y exerce librement, mais au contraire tout bénéfice pour moi, comment n'en profiterais-je pas? La différence entre les spéculations scientifiques ordinaires et les spéculations sur la morale, c'est que les premières indiquent de simples alternatives pour la pensée, tandis que les secondes indiquent en même temps des alternatives pour l'action. Tous les possibles aperçus par la science sont ici réalisables pour nous-mêmes. C'est à moi de créer l'hyperespace. Le résultat que nous prédit M. Spencer, disparition graduelle du sentiment d'obligation, pourrait donc s'obtenir d'une toute autre manière que celle dont il parle. L'obligation morale disparaîtrait non pas parce que l'instinct moral serait devenu irrésistible, mais au contraire, parce que l'homme ne tiendrait plus compte d'aucun instinct, raisonnerait absolument sa conduite, déroulerait sa vie comme une série de théorèmes. On peut dire que pour Vincent de Paul, l'obligation morale, dans ce qu'elle a de pénible et d'austère, avait disparu. Il était spontanément bon. Mais on peut dire aussi que pour Spinoza, elle avait également disparu. Il s'était efforcé de combattre tout préjugé moral. Il n'obéissait à un instinct que dans la mesure où il pouvait l'accepter de propos délibérés. C'était un être plutôt rationnel que moral. Il subissait non plus l'obligation toujours obscure et pour ainsi dire opaque provenant de sa nature morale, mais l'obligation claire et comme transparente provenant de sa raison. Et là où cette obligation lui imposait une souffrance quelconque, il devait éprouver ce sentiment stoïque et d'origine intellectuelle, la résignation, plutôt que ce sentiment chrétien et d'origine mystique, la joie débordante du devoir accompli. Quiconque s'analyse à l'excès est nécessairement malheureux. Si donc il est possible que l'esprit d'analyse coûte un jour à quelques-uns leur moralité, il leur coûtera en même temps le bonheur. Ce sont de trop grands sacrifices pour qu'ils puissent jamais tenter beaucoup de gens. Pourtant, la tâche du philosophe est de raisonner ses instincts mêmes. Il doit s'efforcer de justifier l'obligation, quoique l'effort même pour justifier le sentiment moral risque de l'altérer, en rendant l'instinct conscient de lui-même, en rendant réfléchi ce qui était spontané. Divers ordres de tentatives peuvent être faits pour cette justification. Tantôt, on considère le devoir, avec les platoniciens et les leibniziens, comme une application de la métaphysique. Tantôt, avec les kantiens, on en fait une certitude morale. Tantôt, avec certains néo-kantiens, comme M. Secrétan, on en fait un objet de foi. Tantôt, avec un philosophe contemporain, M. Fourier, on en fait un objet de doute, capable néanmoins de fonder une morale en partie positive et en partie hypothétique. Nous devons examiner tour à tour ces diverses conceptions d'un devoir supérieur au pur empirisme.